La demande.
En formulant une demande concrète, nous sortons de l'attente, souvent désespérée, que l'autre comprenne notre besoin et accepte de le satisfaire. Attente qui peut durer une éternité et se révéler extrêmement frustrante. C'est nous qui devons prendre en charge la gestion de notre besoin et donc la responsabilité de sa satisfaction. Nous nous piégeons cependant souvent en prenant nos demandes pour des besoins fondamentaux. Nous nous piégeons nous-mêmes et nous avons tendance à piéger l'autre lorsque nous ne prenons pas soin de différencier notre vrai besoin de notre demande. En remontant en amont de notre demande pour identifier notre besoin, nous nous donnons de la liberté. Nous constatons, par exemple, que nous pouvons nourrir de toutes sortes de façons différentes notre besoin d'intimité et de retrouvailles avec notre conjoint, ou encore notre besoin de repos, restaurant, promenade, vidéo, cinéma. Nous sortons de la croyance qu'il n'y a qu'une seule et unique solution. En nous concertant sur nos vrais besoins, nous nous libérons mutuellement du piège où nous nous donnons un espace de rencontre et de créativité. Dans cet esprit, il est utile de constater que nous sautons souvent à la solution « vite fait, mal fait ». C'est une des conséquences de notre éducation. Chercher à résoudre mentalement et à résoudre vite. Exercer notre intelligence, notre capacité de performance, obtenir un résultat immédiat, passer le plus rapidement possible de la constatation du problème à sa solution, sans prendre le temps d'écouter les vrais enjeux. Nos malentendus sont des mal-écoutés, qui résultent eux-mêmes de mal-exprimés, de mal-dits et de non-dits. Nous pouvons apprendre à parler à la fois avec sensibilité, force et vérité. À titre de commentaire, j'ajouterai ceci. Nous pouvons aussi constater que nous n'avons pas les mêmes besoins au même moment. Il est souvent difficile de constater paisiblement, avec estime et bienveillance, que nous ne sommes pas d'accord. La différence, et donc le désaccord, sont fréquemment perçus comme une menace. Il faut aussi savoir observer le langage non-verbal. Nous sommes souvent fiers, et à juste titre, de notre langue française riche en nuances. Cependant, elle ne représente qu'un petit pourcentage de notre langage. Le langage non-verbal, selon les spécialistes, constituerait près de 90% de notre communication. En être conscient nous permet d'être attentif à notre propre langage du corps, notre ton de voix, notre débit d'élocution, notre expression faciale, notre attitude corporelle. Pour vous en rendre compte, constatez la portée, la puissance d'un seul regard de reproche ou d'approbation d'un proche ou d'un supérieur hiérarchique ou encore d'un enseignant.